Radio Libertaire 89.4, ça y est, c'est le super panard de la soirée. C'est le retour de trafic après une semaine de vacances. Oui, on était un peu bousculé. Ça a été venteux. Enfin, je sais pas comment c'était en Normandie, mais
c'était
enfin, un peu plus
venteux,
au sud, c'était
mais,
très venteux.
Mais très ensoleillé quand même, ce qui est une rareté pour la Normandie.
J'atteste. Mais bon, un peu plus au sud, vers la Bretagne, c'était aussi venteux, mais c'était ensoleillé parce que, comme tout le monde le sait, il fait toujours beau en Bretagne. Voilà. C'est trafic. Bonsoir.
Bonsoir Thierry.
Salut Agnès.
Et bonsoir notre invité.
Bonsoir.
David Christoffel là-bas au bout du studio, ici pour parler de sa musique. Alors d'habitude, c'est vrai que, est-ce que les musiciens parlent de leur musique? Mais lui, il fait pas de la musique, il fait surtout toutes sortes de textes dans tous les sens. Et en plus, je parle de toi, la troisième personne.
Devant toi, c'est quand même
singulier, c'est quand même terrible. Tu vois, j'ai l'impression. C'est comme si je te vendais une baguette.
Ou alors, c'est comme à TF1, parce qu'à TF1, on vous voit les gens qu'on connaît et qu'on rencontre tous les jours. Parce qu'on ne peut pas dire tu.
Tu veux qu'on te vous voie?
Non. Sans façon. Mais c'est vrai que les pronoms sont quand même terribles de répartition de l'ordre. C'est très comme ça.
Ça range, quoi.
Ouais.
Et pourtant, tu ne dois pas être très facile à ranger. Alors j'ai eu l'occasion, quand même. Voilà, tu es un jeune homme, on va essayer de te décrire parce que après tout, il n'y a pas la
télé.
Donc tu es un jeune homme. Ou plutôt,
oui.
C'est l'apparence que tu as. Mais alors, quand on lit ton CV, on tombe par terre. Tellement c'est fourni.
Mais on dirait Noé, quoi, qui a 125 ans.
Voilà,
quoi.
C'est un peu ça, quoi.
Non, j'ai 31. Ça.
Bon.
Ben, ça nous rassure.
Ouais. Mais enfin,
on peut avoir du talent et plein de choses à dire jusqu'à 31 ans, au moins.
Au moins, quoi. Ouais, voilà. Ça n'augure pas de ce que tu vas faire l'année prochaine. Mais pour l'instant, waouh. Moi, j'ai été scotché, quoi. Donc, d'ailleurs, je devrais le sortir parce que par cœur, c'est impossible de se souvenir. Hein. C'est impossible de se souvenir, il y a plusieurs pages. Il y a plein de sons, il y a plein d'écritures. Peut-être qu'avant tout, avant de commencer à... Ben, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de parler toi-même ou de t'écouter parler?
Ah oui, s'écouter parler, oui. Ben, on pourrait mettre un texte qui n'est pas dit par moi, tu vois.
Voilà, c'est une bonne
masquer
proposition.
Masquer comme ça le nombrilisme attendu. De l'interviewer. J'ai pas plage 4 ou 5, par exemple. Tu vois, c'est un des discours de Chiotte qui a été écrit pour synthèse vocale et qui était projeté dans les toilettes d'un festival à Avignon.
Voilà, donc qui est extrait de cet album tout frais sorti, c'est ça?
Oui, tout frais sorti, en fait, pour le Salon du Livre, parce que c'est édité par Art et Lecture, qui est un éditeur historique de poésie sur support audio, au départ sur cassette. Il y a eu notamment des volumes de Henri Chopin, le poète sonore, et puis c'est une collection qui est vraiment historique parce qu'elle a vraiment duré dans le temps, longtemps, et qui aujourd'hui donc pose comme ça la poésie électronique dans le champ. Et ce qui est assez bien aussi, c'est que c'est des CD qui circulent dans le milieu du livre. Je vais faire de fait une signature de ce livre au Salon du Livre lundi. Et alors, ça se trouve presque par malentendu dans le rayon CD des bibliothèques, parce qu'il y a un rayon CD pour les non-voyants. Alors, c'est formidable pour les non-voyants d'avoir accès à une littérature différente via cette collection, mais ça s'adresse aussi aux voyants.
Oui. Oui, mais attendez, le fait qu'ils soient au rayon CD ne les empêche pas de le voir.
Mais c'est surtout que ces textes ne sont pas accessibles sur papier.
Ah.
Moi, j'ai pris le parti, à moins de prendre des textes qui étaient préexistants pour en faire quelque chose qui, par le jeu sonore, devient différent. Mais sinon, ce sont des textes qui n'ont pas d'autre existence que par le travail de la mise en voix et de la prosodie orale que le texte leur donne.
Mm-hmm. Bon, écoute, alors je propose effectivement, peut-être que ça serait pas inintéressant d'en écouter.
Une belle entre-matière peut-être.
D'affilée peut-être.
Les discours de Chiotte sont très courts de toute façon.
Ils sont très courts, donc on peut en enchaîner quelques-uns.
Voilà, absolument.
Bon, c'est très bien. Alors, c'est les discours de Chiotte, extraits de cet Ecumetrux de David Christoffel avec nous ici dans Trafic.
Vous pouvez être en paix. Vous pouvez être en paix avec vos excréments si vous sifflotez. Les organes plus dégourdis, un allant formidable. mais ça ne peut pas être proportionnel. Mieux vous sifflotez, plus vous avez l'air décontracté sur ce que vous êtes venu faire, de l'efficacité que plus ou moins. De l'efficacité que plus ou moins. Certes bien, le sifflotement, c'est immanquable pour l'air décontracté, autant qu'il indique une grande maîtrise de l'action. Ça ne se passe pas bien pour autant. Une grande maîtrise de l'action. Ce n'est pas proportionnel. Si vous sifflotez, c'est tout ou rien. Ce n'est pas proportionnel. Si vous sifflotez, vous êtes un jusqu'au boutiste. Vous ne faites rien à moitié. Vos défécations sont pleines et entières. Vous y mettez probité. Vous ne faites rien à moitié. Vous y mettez probité. Tranchant, assez d'élégance, c'est la moindre des choses, diriez-vous. Si, là, on ne fait pas complètement, on ne le fera nulle part. À tel point qu'à force de siffloter, avec l'air décontracté, vous n'avez peut-être pas vu. C'est finalement là le moment où vous faites la preuve de votre sens des choses bien faites. À partir de là, vous pourriez trouver meilleur endroit pour mettre d'aplomb vos vertus. Ce n'est pas parce que vous les croyez basiques, que vos défécations doivent être le moyen de leur mise en plus appliquée. Ce n'est pas seulement pour évacuer, ici, peuvent se prendre de grandes décisions. Se consultent en âme et conscience, ici, des grands esprits se recentrent sur eux-mêmes, sous prétexte de quelque nécessité physiologique, c'est là que se fait le point, s'ajuste l'angle, se précise le plan. Dans l'histoire des latrines, s'étire la démocratie par trop souvent le contre-modèle de l'isoloir, qui n'en pourrait dire trop sans jouer, de la trahison d'un électoralisme de plus en plus individualisé, et par le jeu des partis politiques, l'expiation comme zone de réfléchissement, alors que la bonne harne faisant miroiter un désœuvrement, la vie scolaire faisant tellement jet d'encre sur l'écran, il faudra des plans assez fixes pour reconstituer un vacillement d'avant-projection, à moins que l'expiatoire finisse par décréter la fermeture du cinéma. En attendant, on reste dans la salle en attendant les spectateurs qui se rendent compte de tout, alors qu'ils restent immanquables à leur siège. D'où les cabines de masturbation, puisque toujours de quoi s'essuyer.
Puisqu'il y a débat sur les positions, comme il n'y a pas d'accoudoir, du fait que les hauts dignitaires n'en sont que mieux sculptés, dans la mesure où ces grimaces sont sacrales sans être invocantes, tandis que le rituel n'appelle pas de conversion, par ce qu'il fait ce qu'il fait, avec le jeu extra de l'immanence, se purge peu définitivement le destin de l'Occident.
Voilà, on pourrait continuer, mais je trouve que déjà ces deux-là sont vachement bien. Donc ça mérite peut-être qu'on s'y arrête.
Discours. Mais comment on peut définir ça?
C'est un horoscope, moi je dis.
Tu dis de l'horoscope?
Ouais, non, on dirait. Moi j'ai l'impression d'écouter l'horoscope.
Mais c'est vrai que l'horoscope, il a un côté, il s'adresse à notre intimité sur la base d'une impersonnalité absolument monstrueuse. Et de ce point de vue-là, effectivement,
et c'est un peu
il y a un
ça
vrai
qu'on
point
sent.
Commun. C'est-à-dire qu'on se trouve absolument tout seul devant un horoscope, de la même manière qu'on se trouve tout seul aux toilettes ou dans un isoloir ou dans une cabine de masturbation. Et il y a des lieux comme ça d'intimité complètement prescrites et qui sont aussi des lieux d'un discours très particulier. Donc on pourrait définir ça comme de la poésie écologique, vraiment en essayant de prendre l'environnement comme une force de discours qui s'impose à nous et auquel on doit de toute façon réagir. Et de même qu'on a une voix qui s'adresse à nous, mais pour le coup très personnellement, qui nous dit « vous », comme on disait tout à l'heure au début d'émission, dans le train, c'est la voix de Simone qui a fait aussi quelques textes pour ce disque. Et de même, on pourrait imaginer que dans les toilettes, il y a un certain nombre comme ça de... de paroles sociales qui nous sont adressées, sinon imposées.
Mais comment tu construis ça? C'est-à-dire, l'idée à la base, c'est d'imaginer des situations, des concepts qui sont alimentés par des mots, qui vont orienter des gens, qui vont les amener à réagir, ou alors c'est tout simplement des mots qui sont balancés, un peu comme dans la poésie élémentaire, la poésie sonore. Quel est le principe de base pour alimenter cette logorée qui arrive comme ça et qui est un peu fracassante finalement?
Ben, en fait, par rapport à la poésie sonore, par exemple, où l'idée est essentiellement de se concentrer sur ce que la langue peut avoir effectivement de sonore et peut comme ça donc nous extraire du sens. Moi, je me débats avec le sens et avec ce qu'effectivement la syntaxe peut nous imposer d'idéologie notamment et de sens. Mais quand je dis que je me débats, je prétends pas pouvoir m'en défaire. C'est-à-dire qu'il me semble que prétendre pouvoir se défaire de cette oppression-là, parce que c'est une oppression, serait quand même une espèce d'illusion un peu... dire romantique serait facile, mais c'est quand même l'idée. C'est que moi, je me situe dans... Enfin, je me situe... J'ai du mal à me situer, plutôt, par rapport à une syntaxe qui est là et qui voilà, nous impose des façons de parler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expressions du sens commun qui paraissent dans les textes que je peux faire. Et c'est toujours, du coup, à l'arrivée, pour répondre à ta question, des montages de textes ou de phrases que j'ai pu écrire par-ci, par-là, à telle occasion ou à telle autre, et que je vais reconfigurer, remonter à l'occasion, par exemple là, d'une commande d'une association qui voulait faire du collage sonore pour sonoriser des toilettes dans un festival, ou à d'autres occasions. Et une lecture de poésie dans le milieu poétique, pour moi, ça n'est jamais qu'une occasion de faire montage.
Mais en même temps, il y a une vraie volonté de déconstruire le discours.
En fait, il y a plutôt une volonté au moment de le construire de ne pas céder du tout sur la précision qu'il peut avoir. Et du coup, il en ressort de la déconstruction. Du coup, il en ressort effectivement, comme tu dis, une logorée qui paraît complètement démembrée. Mais le démembrement au moment de l'écriture, il est surtout à essayer de creuser dans la phrase ce qui peut lui permettre d'être plus précis au lieu de se laisser aller à ce que la phrase va nous faire dire. Parce que la phrase, elle commence toujours... de manière à nous imposer quelque chose.
Il était une fois.
C'est-à-dire qu'attends, oui, mais quand même, il dit que tu déconstruis, il y a bien un peu de ça quand même. C'est-à-dire qu'au moment où ça devient précis, tu t'arrêtes et puis tu fais machine arrière.
Il y a un moment où la précision est plus possible, où elle est plus tenable. Mais ça, j'ai l'impression que c'est pas de ma faute, si tu veux. J'ai pas la place d'aller dans cette précision-là, au risque d'être d'un chiant qui est absolument impossible dans la société dans laquelle on vit, tu vois. On est tellement inondé de divertissement qu'on peut pas se permettre d'être chiant des heures et des heures. Auquel cas, on n'existe plus.
Oui, il y a plein de gens qui sont chiants, donc bon.
Oui, mais tu vois ce que ça donne.
Bah, il y a des gens qui suivent les gens chiants, donc c'est pas un problème, ça.
Il y en a même qui font beaucoup d'audience comme ça, mais après, il y a d'autres ressorts, je pense. Non, la déconstruction, c'est plus d'assumer vis-à-vis du langage de lui faire cette violence-là, de lui faire la violence de vouloir être précis. Et après, effectivement, assumer de commencer une autre phrase quand la précédente n'est pas terminée, ça c'est simplement un parti pris de montage, mais ce parti pris, il est juste une liberté d'affirmer voilà ce qu'on peut faire avec la langue. Mais c'est pas l'essentiel, je pense que, oui, enfin, ou plutôt c'est pas aussi important que le fait de prendre une phrase et... En venant, j'entendais dans le métro une conteuse parler avec son voisin et elle disait des choses sur les contes du bassin méditerranéen. Et quand elle avait fini une phrase, elle disait donc voilà, et en fait elle s'apprêtait à dire autre chose. Manifestement, elle savait pas ce qu'elle allait dire, mais comme elle avait ces tics de langage, donc voilà, et elle se projetait dans un flux comme ça, elle était obligée de produire. Et je pense que c'est ça que nous cause ce rapport un peu laxiste à la langue, c'est de se laisser aller par des articulations au point de se laisser faire dire des choses que évidemment on a même pas le temps de penser.
Alors justement, toi, dans ta motivation pour déconstruire le discours, pour essayer de le présenter d'une autre manière, qu'est-ce qu'il y a comme volonté dans la démarche? C'est de dire que finalement les mots n'ont pas de sens, c'est de dire que le discours, au bout d'un moment, ça tourne en rond et ça n'apporte rien, ou c'est tout simplement que le discours peut nous amener à réfléchir dans le sens où on n'aurait pas aimé réfléchir, parce qu'il nous est imposé. Quelle est la finalité de cette histoire?
Bah en fait, si je pouvais répondre à cette question-là, je serais philosophe. Et si je le suis pas, c'est parce qu'il me semble que c'est impossible maintenant là d'être.
Il y a une volonté quand même.
La volonté, si tu veux, elle est dans le fait que il y a un moment où j'ai l'impression que j'ai épuisé les figures de citoyenneté qui m'étaient disponibles. C'est vraiment par désœuvrement par rapport à un positionnement politique précis. À un moment où il y a une dizaine d'années, j'écrivais dans des revues à Nantes qui s'appelait La Franchie, où j'essayais d'être extrêmement précis sur les arguments qui étaient avancés. Et ainsi de suite. Et il y a un moment où le débat, au sens un peu argusci du terme, est plus possible parce que le langage nous emporte dans un truc, dans une rhétorique qui est celle du débat, par exemple, qui est une rhétorique, si tu veux.
Mais alors, qui peut suivre sur des schémas de,
ouais, c'est ça, ouais.
De réflexion au niveau des mots tels que tu les défends? Enfin, tel que tu les présentes plutôt que tu les
fais. Mais il me semble que...
Qui peut te suivre là-dessus? Parce que finalement, c'est une dérive. Tu rentres dans une dérive.
On peut pas répondre à la question qui peut suivre au sens où précisément on n'est plus dans...
Mais tu t'adresses à des gens. Donc il faut quelque part qu'il y ait des gens qui écoutent et qui aient envie peut-être de comprendre un minimum de ce qui se passe.
Je te signale que c'est ce qui nous est arrivé. Sinon, on l'aurait pas invité.
Exactement.
Oui, mais c'est pas moi qui m'adresse à des gens. Tu vois bien que c'est une espèce de société qui s'adresse à elle. Et moi, j'essaye de créer des espaces où je détraque ce rapport-là. Et moi, je suis le détraqueur là-dedans. Je suis pas vraiment celui qui s'adresse. Moi, je me poste pas en poète qui m'élève devant la foule pour parler au-dessus des têtes et balancer un discours pour faire apprécier des joliures de la langue. Moi, je suis pas du tout... Enfin, j'espère ne pas avoir à être là-dedans. Alors, c'est pour ça que qui peut suivre me semble une question qui correspond à l'attente qu'on peut avoir par rapport à un discours de « je suis d'accord, je suis pas d'accord ». Une attente qui est finalement celle qu'on a devant un discours argumenté, si tu veux, comme celui que j'ai là maintenant. Mais au moment de faire ce type de texte, la question est plus du tout d'emporter l'adhésion de qui que ce soit. La question est de faire un travail sur la langue et de le livrer comme tel. Alors du coup, de toute façon, ça devient un produit culturel et puis basta. Donc finalement, la question n'a pas la place de m'obséder.
On continue le voyage des sons et des mots.
Ok. Moi, je propose qu'on termine dans les chiottes et ensuite on partira pour ailleurs, non?
Allons.
Une petite musique très nappée, avec des harmoniques douces pour faire ses besoins, c'est un problème. Une musique planante, ça nous projette en zone internationale, comme si nous quittions le pays. Comme si nous quittions le pays, juste après avoir fait. Ce n'est pas que nous sommes attachés à nos effets personnels, jusqu'à ne pas supporter de frontières entre Nord-Est et nous. Ce n'est même pas que nous avons quelques réticences à polluer des pays étrangers pour revenir chez soi lavé de ses envies. Au contraire, ce sont les histoires de frontières. Ce sont les histoires de frontières qui sont merdiques. C'est pourquoi les musiques planantes nous patriotisent et nous emmerdent plus qu'elles nous purgent. Le béaba du punk, c'est bien de refait. C'est bien de refaire une histoire de la musique par sous-genre humain. Le fun serait de la musique d'enculé, le blues, une musique constipée, honte ou état de cause. En tout état de cause, tant qu'elle nous caresse, la musique, on l'a dans le cul. Ce qui est paradoxal tant la merde est, chez les punks, une métaphore sociale inégalée. Tandis que, par provocation ou instinct de désorganisation très honorable, le surennoblissement de toute matière fécale, artistique y compris, est trop nécessairement puant. Il faut être Mozart. Il faut être Mozart pour faire lumineux l'équilibre jusque là où ça chie, et l'écouter encore pour trouver sur le trône la juste extension du plaisir à se soulager.
dame pipi est incorrigible.
Dame pipi est incorrigible.
Plus encore.
Plus encore.
Elle est l'incorrigibilité même.
Elle est l'incorrigibilité même.
Dame pipi ne se prête pas au jeu.
Dame pipi ne se prête pas au jeu.
Elle est irrémédiablement tendue dans les pendants scénaristiques du carrelage.
Elle est irrémédiablement, en dedans, le pendant scénaristique du carrelage. En rien, Dame Pipi ne s'économise. D'aucune manière, pourrions-nous dire qu'elle fait tout ce qu'elle peut.
La fonction de Dame Pipi.
La fonction de Dame Pipi.
Plus que la récolte de la dîme fécale.
Plus que la récolte de la dîme fécale, c'est la visière ciblant l'humain à l'entrée de ses soulagements.
Dame Pipi n'est pas là non plus.
Dame Pipi n'est pas là non plus.
Pour confirmer le caractère universel.
Pour confirmer le caractère universel de la chose, ou consoler quiconque de devoir en passer par là.
Dame Pipi est incorrigible.
Elle est revenue de tout. Clairement, on ne lui fait pas, mais Dame Pipi n'est jamais tous là séparément.
Clairement, on ne lui fait pas.
Tout à la fois, par truchement, du moins, Dame Pipi est. Grande gueule. Sans œuvre.
L'amabilité acharnée.
L'amabilité acharnée.
Intarissable.
Stupéfiante. Tellement indétachable du décor.
Magnifique. Plus ou moins réussi.
Plus ou moins réussi. La quintessence du rétro.
Même pas folle.
Même pas folle.
Le bon sens même.
Le bon sens même.
Jacques Sardou.
Jacques Sardou.
La métaphore du tranchant.
La métaphore du tranchant bien trempé.
Voilà, donc c'était la deuxième partie des discours de Chiotte pour synthèse vocale.
Oui.
Bon, il y a un vrai plaisir jouissif de jouer avec les mots.
De jouer avec les mots, non. Enfin, avec les mots, avec les références.
Mais derrière les références s'expliquent, enfin, se traduisent par des mots. On s'aperçoit bien qu'il y a un jeu sur les mots.
Mais en fait, le risque de dire ça, c'est de laisser.
Ça deviendrait mécanique.
Non, c'est que le plaisir, la jouissance, ne serait pas. Hors des codes. Or, il me semble qu'elle sort des codes. Je veux dire que la glossoludie...
on apprend plein de mots,
c'est joli.
le jeu du langage, c'est un truc qui est très... facile, quoi. Enfin, je veux dire, dès lors qu'on dit 1, 2, 3, nous irons au bois, on joue avec les mots. J'espère que cette démarche va un peu plus loin que ça. Je veux dire, un peu plus loin que la seule jouissance du mot pour le mot, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a aussi dans ce travail-là, alors ça s'entendait un peu peut-être avec le troisième discours de Chiotte, la mise en tension avec la musique, qui effectivement essaye de mettre en jeu que l'intonation est elle-même portée par des problèmes. Et donc, si effectivement il y a un plaisir, une jouissance, c'est peut-être essayer de se cramponner à ces intentions, à ces intonations-là pour leur faire dire peut-être autre chose que ce qui était attendu.
Alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce genre d'expression?
À cette façon
d'exprimer les choses, cette façon de déconstruire le monde, cette façon de dénoncer un certain nombre de choses, de décrypter des événements, qu'est-ce qui t'a amené à ça? On dirait, c'est un travail de linguiste presque quelque part.
Oui, mais effectivement, il y a... Enfin, j'ai des projets avec des linguistes de Rennes sur les mots de la langue qui manquerait à la langue française. C'est un projet que que je suis en train de mettre sur pied, qui serait une espèce de dico sans frontières, qui est en réponse à ce truc de Sarkozy qui veut qu'en arrivant en France, on parle déjà la langue française. Ce qui me paraît une absurdité dans la mesure où tout simplement la langue est un truc de vivant et que évidemment que des gens qui ne parlent pas notre langue ont des choses à apprendre à notre langue y compris. Et donc je voudrais demander à tous les gens qui n'ont pas à tous les gens que je serais amené à rencontrer, qui n'ont pas le français en langue maternelle, d'essayer de pointer des mots qu'ils ont dans leur langue et dont ils n'arrivent pas à trouver un équivalent quand ils apprennent le français en français. Et réciproquement, des mots qu'ils ont du mal à apprendre du français ou qu'ils ont mis du temps à apprendre parce qu'ils n'ont pas l'équivalent dans leur langue maternelle. Et de comme ça compléter la langue par l'extérieur, parce que je trouve qu'il n'y a pas plus pathétique de la part de l'Académie française que de produire des néologismes et de les dicter aux gens sous prétexte que des anglicismes viendraient polluer notre langue, alors que c'est des mots qu'on a déjà là. Enfin, le mot blog serait par exemple pointé comme étant trop angliciste et du coup il nous propose de le remplacer par bloc-notes au point de complètement évacuer le fait que c'est électronique, tout ça, enfin, se déconnecter non seulement d'une réalité, et en plus, qui plus est, d'une réalité de la pratique de la langue, quoi. Alors effectivement, voilà, il y a peut-être ce lien avec la linguistique qui essayait aussi de suspecter là où les unités syntaxiques concordent que plus ou moins avec les unités sémantiques. Mais ça, pour le coup, je ne suis pas du tout le premier à le faire. Il y a une espèce de peut-être pas de tradition, mais en tout cas d'histoire de ça. Rimbaud, quand il commence à faire des enjambements un peu heurtés, commence. Et puis évidemment, quand Apollinaire supprime la ponctuation de ses poèmes.
Et puis de Zara aussi.
Et puis de Zara, ouais. Bien évidemment. Ce qui est formidable avec Zara, c'est que il y a presque un style par recueil. Ça veut dire que le style est en lui-même un acte ponctuel à l'échelle d'une expérience de la langue, donc c'est encore alors que on était presque habitué avant de Sarah à ce que le style soit plutôt la résultante d'un travail sur la langue. Enfin, moi j'ai pas l'impression de ce point de vue-là d'être un styliste. Je fais un travail sur la langue et je vise pas tant que ça le style. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je vise le style, en général ça va mal, quoi. Enfin, ça devient un peu justement le jeu sur le langage. Avec les rires étouffés autour de complicité, tu vois, un peu privative.
Et en même temps, quand on écoute ces textes-là, enfin ceux qui sont extraits de cet album-là, on se pose la question de savoir si il faut se laisser bercer par le jeu sur les mots, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on se laisse emporter par les mots et leur structure et la façon dont ils s'enchaînent, ou alors on oublie ça et on bascule sur les idées qui peuvent être véhiculés. On est un peu dans le doute par rapport à ça. On ne sait pas si faut s'accrocher aux mots parce que c'est un jeu purement comme des Legos, hein, des mots qui s'accrocheraient les uns aux autres et qui ensuite font un résultat qui est ce qu'il est. Ou alors on oublie les mots et on se retient par rapport aux idées. Et là, je veux dire que le choix, il est toujours très très difficile. Alors je ne sais pas justement dans ta motivation, dans ce que tu veux faire passer.
Moi, ma qu'est-ce qui est important, elle est de généraliser cette difficulté au-delà de mes textes et de mes propres productions. Dire que, en fait, c'est peut-être cette difficulté que moi j'essaye de partager à travers tout ça, parce que j'ai effectivement aussi du mal, y compris, enfin, quand j'écoute quelqu'un, à me laisser bercer par les intonations, par le flux, par tout ce que la structure de son discours peut contenir de structure. Et du coup, à pas tant que ça écouter le sens ou à me concentrer sur les idées. Est-ce qu'il y a
Oui, parce qu'à un moment, sur les mots, c'est la musique des mots.
C'est-à-dire qu'on la musique des phrases, en tout cas.
Des mots et des phrases. Les phrases sont constituées de mots. Donc, bon, c'est la musique ou alors c'est le sens. Et là, je veux dire, dans le choix, on ne sait pas toujours.
Bah, le sens, il est fluctuant. C'est-à-dire que quand on essaye de capter des idées, dans la mesure où enfin, je crois que, en fait, ce sentiment-là, il est la résultante d'un simple fait, c'est que je développe pas. C'est-à-dire que je collectionne et j'additionne les uns les unes à la côté des autres des unités de sens et j'essaye de mettre en valeur, en relief, en jeu ce que leur rapprochement peut générer quand il n'est pas tout à fait naturel. Et ça, c'est quelque chose qui donne l'impression, comme tu disais tout à l'heure, de logorée, de flux, alors qu'au contraire, c'est quelque chose de très, très discontinu. Mais comme c'est des discontinuités qui ne s'arrêtent pas, qui n'ont pas de développement, voilà, du coup, on ne sait pas très bien où il faut arrêter les choses soi-même, parce qu'on a bien compris, par contre, qu'il fallait les arrêter soi-même. Voilà, mais là-dessus, c'est normalement à peu près, parce que ça va trop vite, impossible à faire à l'oral, enfin à l'oral dans le flux, à moins de prendre les textes sur papier, mais d'isoler le sens et les idées. Et quand on y arrive, c'est de façon très ponctuelle, j'espère très heureuse, et tant mieux que ce soit ponctuel et qui plus est quand c'est heureux.
Ah, ça veut dire que ça reste multiforme en plus.
Et flottant.
Flottant. Mmh.
Surtout flottant, oui. Mmh. Parce que multiforme, ça voudrait dire quand même qu'on pourrait avoir plusieurs sens à la fois.
Oui.
Je pense qu'on peut avoir plusieurs sens d'une écoute à l'autre.
Oui, d'une écoute à l'autre.
Mais par
oui,
contre,
si ça peut...
certainement, est-ce qu'on peut avoir qu'un sens à chaque écoute? Et ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant.
Oui, mais toi, dans ta volonté, parce que bon, c'est bien beau d'écrire des textes, c'est bien beau de jouer avec les mots, c'est bien beau de se faire plaisir, parce que je pense que c'est jouissif. Hein, les textes, ils sont toujours très jouissifs et je veux dire qu'à l'écoute, on y prend un grand plaisir. Mais toi, dans ta volonté de transmettre quelque chose ou de faire passer, je dirais pas un message, mais de faire passer alors, je sais pas quel serait le mot le plus adapté, une envie, une volonté, un esprit, c'est quoi, justement?
Mais
qu'est-ce
ça,
que l'auditeur, qu'est-ce oui. qu'il doit recevoir à l'arrivée? Qu'est-ce que tu as envie de lui envoyer?
Mais je suis pas sûr que je passerais par ce média-là si je le savais de façon argumentée, si tu veux. Si je pouvais répondre à cette question-là de façon...
Mais tu enregistres un disque
ben oui.
pour qu'il soit écouté,
oui.
donc pour faire passer quelque chose.
Ben c'est donc, exactement ce qui est dans le disque, ouais. c'est-à-dire 14 plages, 14 textes, 14 démarches. Mais ce que je veux dire, c'est que ma volonté, elle n'est pas la même quand je fais Attrape, Active et Dégage, qui est l'opéra parlé qui ouvre le disque, et quand je fais My Kurt, qui est un hommage à Kurt Cobain. Enfin, évidemment.
Il y a plusieurs volontés, mais il y a des volontés.
Oui, il y a des volontés, mais qui, elles, sont le fait de sensibilité plus ou moins aiguë à des moments donnés.
Alors, par exemple, sur les textes qu'on a déjà écoutés, là.
Oui.
La volonté, c'est de faire passer quoi?
La
cohérence des choses, c'est quoi?
C'était de faire entendre ce que la musique ambiante pouvait impliquer de terrible quand on essaye de la prendre en compte véritablement intimement. C'est pour ça qu'il y a cette notion de zone internationale où il y a une musique qui se veut déconnectée de toute référence nationale, enfin qui est très curieuse. Et puis il y a aussi le fait que les toilettes sont quand même un lieu de méditation, un lieu de recul, de retrait, de lecture, d'écriture, et que à ce titre-là, il méritait que l'on s'y arrête. Et puis il y a voilà cette notion de, enfin ce travail sur les synthèses vocales qui là, c'est une rencontre d'opportunité, que la synthèse vocale rencontre l'opportunité de faire des textes aussi pour les toilettes. Il se trouve que ça me semblait tomber bien, donc c'est pour ça que je l'ai fait, mais ça m'intéressait aussi de tester, et c'est aussi exactement ça que j'ai fait avec la voix de la SNCF, de tester la prosodie de mes textes à une prosodie qui n'est vraiment pas la mienne et qui est irréductiblement pas la mienne, à savoir celle des synthèses vocales qui imprime vraiment d'autres tampons métriques, on va dire, aux phrases. Que ceux que je peux mettre, évidemment.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes toujours à l'écoute de Trafic. On est en plein dans les mots et cela encore pour un bon petit moment.
io ignorona Giamma e Maria lei A me bilo anche similone Nana io ignorona Giamma e Maria lei A me bilo anche similone Ibi ele mongo udola Ona kile masa bunyuma Dunya bechendi Tegele me mongo udola Ona kile masa bunyuma Dunya bechendi Dabe yele la lomino Dabe kasi wolonde la Dunya bechendi
Ah là 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 là, non, 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 revenez à vos places immédiatement, revenez à vos places.
Ça y est, ils sont
désolée.
Revenus, il n'y a pas de problème, Agnès. Le studio n'est pas si grand, Radio Libertaire. Juste à l'instant,
c'était
quand
quoi,
même.
C'est quoi ce très joli morceau, Thierry?
Eh bien, c'est un musicien qui s'appelle, enfin un chanteur, un musicien qui s'appelle Victor Démé, qui est un chanteur-musicien burkinabé. Le morceau qu'on a écouté, c'était John Maya, évidemment. Je ne garantis absolument pas l'accent pour prononcer le titre de cet album. C'est un disque génial. Hein. Il n'est pas encore réellement sorti et donc il devrait sortir prochainement. Et dans les guitares, on retrouve des accents de Ali Farka Touré,
le blues du désert.
Et donc à suivre, hein, Victor Démé, D, E, accent aigu, M, accent aigu, E, etc. C'est vraiment un personnage assez attachant et je pense qu'on en reparlera sur cette antenne. Et si on pouvait l'avoir en interview, ça serait vraiment de la balle.
Alors moi, pendant ce temps-là, j'essayais vainement, je dois dire, de caler entre 4:30 et 5.
C'est
peut-être
4:25.
C'est peut-être 4:25, parce qu'entre 4:30 et 5, j'ai pas trouvé. Alors éventuellement, je vous propose de viser quelques 2 minutes, le temps que j'arrive à repérer le trou.
De viser. Bon, alors justement, ce que je me posais comme question, David, c'était, là, on a écouté un petit peu de son, mais ce qu'on entend qui est sur disque, tu le pratiques sur scène, tu le déclames, tu le dis dans des radios, tu le dis dans des scènes slam, comment ça se passe ?
Alors, il y a plusieurs dispositifs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au départ, je faisais sur scène, ils entendent des opéras parlés, où le texte était en off, et où je jouais de la musique en live en même temps. Mais du coup, la partie parlée était... en fait, c'était la structure wagnérienne, mais inversée. C'est-à-dire que Wagner met l'orchestre dans la fosse, cache la musique et laisse le texte derrière. Et moi, ce que je faisais, c'était de rendre le texte aveugle et seulement visible la partie musicale. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas faire les deux en même temps. Donc avec un ami musicien, on a monté un trop-pop opéra où je disais le texte...
Ce que veut dire trop-pop opéra ?
Le trop-pop opéra, c'était un opéra trop-pop, donc qui essayait de s'attaquer à tous les clichés pop. Y compris musicalement, ce que faisait Martin Richel à la guitare était aussi d'essayer d'outrer un peu ce qu'on peut faire avec une guitare dans le cliché pop.
Et puis, guitare héros
Non, quand même pas. Non, c'est vraiment une guitare, mais posée sur une table et qui le manipulait un peu comme on prépare, comme John Cage préparait un piano. Et après, j'ai fait véritablement des mélodrames avec la structure mélodrame au sens de vraiment me produire, entre guillemets, comme récitant. Alors, il y a eu plusieurs dispositifs. À l'occasion d'un colloque sur le mélodrame à Royaumont, j'avais créé l'opéra Lamento sans les poils, où j'arrivais vraiment comme un conférencier, donc ça se présentait comme une conférence. Il y avait quelques accords au clavecin, puis après à des claviers plus électroniques qui casaient petit à petit et qui faisaient que ça devenait indubitablement une forme musicale. Et puis... l'opéra le plus récent, Attrape, Active et Dégage, dont on va écouter un extrait. Là, pour le coup, c'est vraiment une bande préparée avec musique et bruitage, et où je dis le texte par-dessus. Et j'ai eu l'occasion, à la Maison de la Poésie de Rennes, il y a un mois, de le produire vraiment de cette façon-là, c'est-à-dire de dire le texte en même temps, mais pas de le déclamer, au sens où c'est pas, en tout cas, présenté comme une performance théâtrale.
On reste dans le champ de la poésie ?
Oui.
On n'est pas dans l'aspect diseur, l'aspect conteur, l'aspect relateur, on est toujours dans le domaine de la poésie.
En fait, je crois qu'on est toujours dans le domaine de la poésie pour justement pouvoir dire qu'on n'est ni diseur, ni conteur, ni surtout comédien. Et à la limite, moi j'assume assez la poésie comme un genre par défaut de ce point de vue-là, c'est-à-dire vraiment une espèce de genre que auquel on recourt quand on n'a plus d'autres genres à convoquer.
Et en même temps, là, ça laisse un champ à un petit peu aussi au n'importe quoi, parce que moi j'ai vu des séances de poésie sonore où les poètes se contentaient de lire les pages jaunes de l'annuaire, quoi.
Oui, mais les pages jaunes de l'annuaire font partie de notre environnement verbal, vraiment. Il y a
c'est du son, évidemment. Dupont, Alain, 33 rue des...
Mais c'est autant de noms propres réduits à des numéros de téléphone. C'est aussi un horizon social, je veux dire, que d'être un numéro de téléphone ou d'être une somme de données numériques. Et c'est... c'est même formidable qu'on s'aperçoive que la CNIL aujourd'hui ait quelques difficultés à se faire entendre alors qu'elle essaye de défendre qu'on ne soit pas réduit à des données comme ça numériques. Non, c'est pour dire simplement que moi je sais pas si j'ai à répondre de ça au sens où je suis dans un travail qui, comme je disais tout à l'heure sur la poésie sonore, n'abandonne pas la prise, pour autant qu'elle soit une tension violente, avec le sémantique, avec le sens. Donc, pour autant que je puisse ponctuellement, ou après il faudrait... éventuellement on semble écouter des travaux les uns après les autres, mais pour autant que je puisse être très ému par le type de choses dont tu parles, c'est pas pour autant mon travail non plus. C'est pour ça que je dis opéra parlé. C'est aussi pour dire que voilà, c'est un genre qui a besoin de s'affirmer comme étant nouveau, branlant, impossible pour pouvoir exister.
Tu sais pourquoi
t'as pas pu les caler? Je vais t'expliquer.
Parce qu'il y a pas de trou.
C'est-à-dire que en fait, Attrape, Active et Dégage, c'est à la fois une trilogie et un diptyque. Donc là, on essaye de trouver le milieu parce qu'il y a une mi-temps comme dans un match.
Alors voilà, j'ai mis sur la mi-temps.
Mais c'est bon alors.
Ah, c'est bon parce qu'en fait. Ah, d'accord, bah c'était plus loin.
D'accord. Bon, donc on va écouter la deuxième mi-temps.
La deuxième mi-temps, bah voilà, c'était. Voilà. Mais je te dis, il n'y a pas de trou quand même. Bon, enfin,
d'accord. Mais bon.
Mais Agnès a trouvé quand même le truc qui n'existait pas, ce qui est important quand même à retenir.
Mi-temps, compte, promesse revue, moindre hausse, histoire de back-office. Le joueur plus vraiment très animal. Le conseil, énoncé beaucoup trop formel, énonciateur formellement agaçant, rage complètement inappropriée. La mascotte, elle peut aller sans commentaire, pas la peine de chanter pour autant, dire que la démocratie s'en étouffe. Voilà, risque d'éveiller un désintérêt, peut-être même un peu de désinvolture, c'est bien là que pourrait devenir intéressant quand même de quoi en agacer. Plus d'un, toujours petite hargne, voudra bien faire toute l'histoire comme quoi même une action sans intérêt n'est pas sans conséquence, sans le cas échéant, même si pas de quoi, même sans le vouloir, de toute façon sans vanter, ça se fait sans se faire, ce n'est pas une question de grande gloire depuis le temps. Yark et Yep. Et bon temps, soit hygiène, s'il dépasse, dépend quoi. Mais si, revient d'un autre côté, la preuve qu'il vraiment, quel manque de civisme. Tout de même, si on ne reconnaît pas ça, tout est permis, des tortues, place de l'église, ça fait des ordres, voilà, toute la fermeté. Même des imprimeurs, on ne peut pas plus discipliner qu'une photocopieuse, mais croyez-vous qu'ils iraient chercher pourtant l'essentiel. Non, pendant ce temps-là, il y en a qui préfèrent, voilà, diversion, crachoir, président, passe, presse, bois, je suis, j'éclure, raflure, président, encore plein d'autres, mi-temps ou pas, reçoit, renvoie, rappel, flanque, noix, approuve, prend, jette. Fanfare, journée mondiale, discours, fichu data dur si peut tellement, un jour il faut plan, renfer, suivra ce que ça peut, toujours ça, gicler, mots courtes, mais annuel. Ce qui n'a jamais empêché personne, voyons bien entendu, faire fortune industrielle, même dans les étouffes chrétiens, c'est très grave, bien sûr, les arbustes tant qu'elles sont comme ça, tacle, pas vraiment faute, sanctions qui se perdent, ça annonce une fin des plus incroyables scénarios, catastrophes. Quand même pas, exagéré, demande que ça, bien entendu, n'a rien à voir. Patience à la baisse, selon l'endroit, qu'importe, à ce moment même, très organisé, tant mieux pour l'histoire de ne pas perdre sa bonne humeur, la tentation de ne pas décolérer, pas le moment de se démobiliser, l'heure est grave, même terrible qu'il faille en arriver là pour se rendre compte, ce serait tellement dommage de tout confondre, puisqu'on peut toujours s'arranger, on aurait presque pu le faire plus tôt, on aurait peut-être évité, mais on n'y serait pas arrivé avec autant, la nécessité, il n'y a rien de tel, pour y arriver, il va falloir s'agiter. Le feu de l'action n'est pas une raison et la victoire ne manque jamais vraiment. Sa grande sagesse à toujours ne pas confondre l'élan avec la bonne direction. Fusillette, sa terrible manie à rabâcher, courageuse, qui lui tient principe. Suffira-t-il du suffrage pour justifier quand besoin ne sera plus pour tasser? Ça ne s'appuie jamais assez. C'est par là que s'imagine l'enflouement des contours. Lorsque la gravité ferait toujours bien de plomber le temps qu'elle doit gagner, ses grandes décisions se filent les unes dans les autres, maximalement. Faudrait pas trop toucher parce que ça va nous fragiliser encore un peu plus. Et comme on est content d'être juste fragile comme il faut, on aime que ça puisse se casser, c'est dire si ça résiste, ce qui doit bien aimer encore résister pour que travaille bien le fait de ne pas casser. Certes, faut-il que ça frotte, pour autant que ne saurait le requérir, faut-il bien l'inespérer pour qu'il faille que cela arrive tout de même sans qu'on le... Et tripotis, consécutif, toujours chétif, est affaire plus structurelle qu'obligé de paraître un simple coloris spirituel, se fout de son mode d'emploi de la même manière exactement que ne peut pas se permettre d'appeler aux agresseurs qui sont mieux cassants quand on ne leur a pas demandé. L'hypothèse, c'est que le club n'est pas conséquence des états seconds. Pour démontrer que l'hypothèse n'implique pas nécessairement le club, prouvez que club peut seul infirmer hypothèse en vous appuyant sur des états seconds qui arrivent à tout le monde alors qu'ils peuvent être instructifs à tous les coups. Suivant l'axiome, état primaire ne veut pas dire qu'état second pas bien. Défendre que non-hypothèse n'est pas tout à fait égal au fait qu'il n'est pas toujours intéressant de rester dans un état dit normal. Procéder en deux étapes, qu'importe si l'ordre en est finalement intuitif. Pour vérifier si hypothèse implique non-club, si la créativité de nos états seconds implique un caractère plutôt pas du tout exceptionnel dans ses applications, chercher à développer comme en club sert à prouver non-hypothèse et qu'il en ressort que P revient à inverser H et C tout en soutenant que C implique non-H, qui doit prouver que D implique P plus grand que H. clubbing, supposant pas mal d'états primaires.
Et voilà, la deuxième partie.
Avec un élément supplémentaire là, par rapport aux extraits qu'on a écoutés précédemment, effectivement, c'est l'apparition de la musique.
Oui, enfin c'est plutôt la disparition de la musique dans l'ordre chronologique en tout cas de mes activités qui a fait que les travaux ensuite sans musique sont apparus, mais du coup avec une thématique de la musique. Là oui, c'est effectivement un opéra parlé, donc c'est la suite de...
Alors comment ça se construit ça justement ?
Un opéra parlé.
Oui, il y a un texte qui vient et puis après il y a un improvisateur qui va venir mettre du son dessus, ou alors il y a un vrai travail avec une communion, c'est-à-dire bon voilà.
Avec un livret, avec.
Là j'ai fait vraiment les deux séparément, c'est-à-dire que j'ai composé la musique qui a servi de support de structure au montage du texte. Donc le texte entre guillemets à l'état de rush était préexistant au livret. Oui, au livret, dans son montage, mais était préexistant aussi à la musique. Et c'est une fois que la musique était plus ou moins finalisée dans sa forme que le texte est venu se distribuer dedans. De telle sorte que vraiment, la musique devient le support ou le tenant de la cohérence d'un texte qui est pour autant non développé. On ne peut plus décousu, on pourrait dire, si on le prenait comme tel. Et en revanche, au moment de le faire paraître en revue, puisque ça va paraître dans la revue Docs à Ajaccio, je fais paraître vraiment les deux
ensemble. Ils ont traversé la Méditerranée, Docs ? Ils étaient à Marseille avant ?
Ils étaient non, ils ont toujours été à Ajaccio, non ?
Ah bon, non, je pensais qu'ils étaient à Marseille. Enfin bon, peut-être.
Ah oui, ils étaient peut-être à Marseille à l'époque de Julien Blaine.
Oui.
Mais depuis que c'est Philippe Castelin et Jean-Dérin Grosset, c'est revenu. C'est chez eux à Ajaccio. Depuis que Blaine a, il est revenu Blaine, mais c'est n'empêche encore à Ajaccio.
D'accord.
C'est une revue importante, je crois. Donc justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure de la poésie, c'est pas un genre, c'est plus l'excuse de pratique. l'excuse, le label qu'on prend quand on ne se soucie pas tant que ça des genres. En tout cas, moi, c'est dans ce sens-là que...
Ça voudrait dire que c'est un peu une poubelle, alors.
Ouais.
Présenté comme
cas,
ça.
En tout cas, je ne connais pas d'autres revues de poésie dans le paysage poétique.
Non, je parle de la poésie.
Qui n'est pas de déchets. Et qui est justement, de ce point de vue-là, un peu plus écologique. Parce qu'ils publient quasiment tout ce qu'ils reçoivent. Mais c'est formidable en même temps, comme posture à la fois, certes, de non-rejet, mais surtout de générer un réseau dont on assume toutes les productions. Enfin, c'est bien autre chose que le petit comité éditorial qui, quand il reçoit des textes, fait de tas les bons, les mauvais, quoi. Et autant dire les gentils, les méchants, avec ce que ça peut comporter de...
Là. Alors là, on a eu plusieurs aspects de ta production, c'est-à-dire des textes dits par quelqu'un d'autre, là, des textes dits par toi, mais avec de la musique, etc. Est-ce qu'à chaque fois, la construction des textes, justement, se fait de la même manière ? Sachant que ça va être dit par quelqu'un d'autre, que ça va être appuyé par une musique, que ça va être dit a cappella, est-ce que c'est une construction différente ou est-ce que c'est toujours identique dans ta tête ?
Ah non, pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, la confrontation au son est vraiment déterminante à un moment donné, qui est pas toujours prédéterminé d'ailleurs. C'est-à-dire que quand j'ai fait des textes pour Simone Hérault, donc la voix de la SNCF, moi je voulais vraiment qu'elle ait les trois intonations qu'elle a, c'est-à-dire intonation montante, descendante, neutre, enfin je sais plus quelle est la terminologie qui s'emploie entre eux, mais pour dire que moi j'avais fait des textes en fonction de ça, jouant entre guillemets des faits de cet aplatissement de la prosodie, et à l'arrivée je me suis pas du tout retrouvé. Et donc j'ai fait un remontage des enregistrements qu'elle avait fait de ces textes. Et du coup, le texte à l'arrivée qu'il y a sur le disque est franchement différent du texte qu'elle avait sur le papier le jour où on a fait les enregistrements des poèmes que j'avais pré-composés. Et ensuite, pour les discours de Chiotte, de même, le jeu, par exemple, avec la voix italienne et l'accent, m'a amené à retoucher le texte au moment du montage. Et la répartition entre les voix, elle est vraiment une écriture, participe de l'écriture du texte, mais n'était pas sur le papier.
C'est-à-dire qu'au moment où tu écris, tu sais déjà comment tu veux que ça se présente à l'arrivée ? Ou alors après, ça s'aménage. Tiens, ça serait pas mal que ça soit dit par une autre voix. Tiens, ça serait pas mal que ça soit accompagné par de la musique. Tiens, ça serait pas mal que ça soit qu'ils le disent.
Oui, il y a de ça. Mais en fait, c'est toujours un peu rétroactif. C'est-à-dire que c'est toujours à l'occasion de travailler avec telle autre voix, aller chercher tel texte qui, jusque-là, n'avait pas trouvé de destination. Parce que finalement... j'ai beaucoup de mal au moment de d'écrire un texte à savoir dans quel forcément projet il va s'intégrer. Par exemple là je fais un petit livre qui s'appelle Pourquoi disons n'importe quoi, et les textes que je destine à ce petit livre là des fois s'échappent, enfin j'en ai d'autres usages qui me semblent plus pertinents à l'occasion. Et pour le coup, je vais rapatrier des textes que j'avais pas encore utilisés ou que j'avais utilisés pour autre chose, en les remontant pour cette occasion.
Alors c'est...
Bon, non, tout à l'heure, tu as dit que tu avais perdu la musique en route, en fait, apparemment. Je me demandais pourquoi la musique prenait moins de place maintenant. Tu l'avais abandonnée au profit des mots.
Non, je l'ai pas abandonnée. Pour moi, ce serait plutôt une parenthèse sans musique, parce que le travail le plus récent reste Attrape, Active et Dégage, où c'est plutôt le retour de la musique. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'elle, ce disque-là, Ecume et Truc, étant pour un éditeur historique de poésie sur CD, je voulais pas mettre trop de travaux avec la musique, et je voulais faire du coup par l'alternance entre des plages avec musique et des plages sans musique, entendre que même a cappella, la musique reste pour moi déterminante dans la façon de dire les textes, dans la façon de les monter, de les couper, pour autant qu'elle ne soit pas phoniquement, on pourrait dire, qu'elle ne soit pas matériellement présente.
Mmh.
Mais elle reste constitutive dans l'écriture des textes.
Ouais, d'accord. Et t'es musicien aussi.
Ouais.
Tu joues de quoi?
Et compositeur. De la clarinette.
De
la flûte à bec, alto et ténor, et un peu de piano, mais en dilettante.
Wow.
Donc du synthé, en fait.
Donc voilà, du synthé, ce qu'on a pu entendre. Donc tu programmes, etc. aussi, j'imagine.
Et du coup, je me suis mis au midi depuis un an et demi, à peu près. Et c'est intéressant, et en même temps...
Au midi, d'accord.
C'est-à-dire de vraiment jouer d'un synthétiseur et...
Qui commande d'autres machines.
Qui commande... Oh non, en fait, d'autres instruments. Je m'en sers vraiment de synthétiseur virtuel. Je ne sais pas encore travailler d'autres machines. Et alors, c'est marrant parce que ça me pose des questions de pratique au sens où il y a des technologies qui se donnent à moi, dont à la fois je ne sais pas quoi faire, qui en même temps m'attirent et... dont la pertinence est incertaine par rapport à mon propos. ça, c'est assez curieux.
Ouais, et le son en général, visiblement, enfin, t'as fait pas mal de radio. Enfin, on s'est croisés d'ailleurs à l'occasion
d'une expérience radiophonique,
donc peut-être qu'on pourra revenir dessus tout à l'heure, parce que il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé, on pourra en dire deux mots. C'était une expérience.
C'était il y a un an à peu près.
Ouais, c'était un travail que t'avais fait à partir de Paroles de prisonniers.
De paroles de prisonniers qui avaient été pris dans les archives de l'INA, qui m'avaient été données par Bruno Letor, le producteur de l'émission Tapage Nocturne, qui m'avait donc commandé une œuvre qui composait ces paroles de prison dans une mise en musique. Et donc la mise en musique était une partition pour clarinette, bandoneon et voix baïonnée. C'était Agnès qui faisait la chanteuse baïonnée, ce qui avait été l'occasion de terribles rebondissements. Et au-dessus, donc du coup, j'avais effectivement tissé dans le montage les voix des prisonniers avec des paroles d'intervieweurs de ce moment-là, de propos insensés tellement ils étaient journalistiques sur la psychiatrie, d'exercices du code de la route sur l'orientation, est-ce qu'il faut aller à droite ou à gauche. Et alors oui, tu me dis, il y a des gens qui n'ont pas aimé.
Oui, quelqu'un qu'on connaît d'ailleurs, Philippe Lemenuel qui a donné pas mal de cours de son en prison, justement. Je sais plus quel. dans quelle tôle, hein, bref, qui avait été choqué du détournement en fait qui avait été fait des paroles des prisonniers, etc. Quoi, voilà.
Il a été choqué du détournement. Oui, enfin, pense que la parole du prisonnier doit être une parole qu'on met un peu ex cathedra.
Voilà, quoi, en tout cas.
Plus que du détournement, c'était de l'utilisation.
De l'utilisation, quoi, voilà, l'utilisation qui avait été faite.
Offshore.
Ouais.
Moi, ça me choque en retour, du coup, enfin que qu'il n'ait pas aimé me pose aucun problème, mais que ce soit cet argument m'alerte un peu, parce que je vois pas, sinon une logique carcérale renversée, ce qui justifie que ces paroles ne puissent pas être
sortir et prendre sortir, leur
et
prendre
surtout,
leur
prendre d'autres mesures,
prendre d'autres mesures, oui,
moi,
tout à fait.
Je
oui,
me souviens
comprends.
Avoir composé toute une plage, donc cette œuvre s'appelait Écrou partout, donc vraiment avec cette idée que le discours des enfermés se tisse aussi bien avec le discours médiatique, c'est dire à quel point il y a quelque chose de suspect qui se passe. Et j'avais par exemple collectionné tous les énoncés avec un contenu numérique à un moment donné où on entendait un prisonnier dire il me reste tant de temps, j'ai tant d'argent pour payer la télé, et tout ça collectionné nous faisait entendre ce qu'aucune des paroles de prisonniers séparés ne permettait d'entendre, à savoir l'importance du numéro, certes du numéro d'écrou, mais aussi l'importance du nombre de bâtons qu'on met sur le mur quand on est en prison. Enfin, moi, c'est un thème sur lequel j'étais très sensible, enfin avec lequel je suis... sur lequel je veux bien débattre encore et encore.
Mais il n'est pas là, donc on
débat.
Non, voilà, non, non.
Vraiment, non, non, je suis mais... très ouvert à ça, moi, ça me part. Ouais.
Est-ce qu'éventuellement on peut, comme on en a parlé, on peut éventuellement passer un tout petit bout que les gens sachent de quoi
avec
on
plaisir,
a parlé.
Avec plaisir. Oui, mais justement, en plus, c'est plutôt au début qu'on entend cette collection numérique, donc on peut écouter effectivement quelque
chose. Juste un petit bout du début, en partant du début, comme ça. Voilà, je cherche pas les trous.
Radio Liberté 89.4. Vous êtes toujours à l'écoute de Trafic avec David Christoffel.
Ça a été en 76, des postes. Non, c'est vrai que la prison a évolué maintenant. Hein. Les ventilateurs, c'est pas vieux non plus, c'est de 86, je crois. Ça a été une grosse chaleur. 42, 43 degrés. Parce que là, il y a des fenêtres, vous pouvez les ouvrir, mais là-bas, c'est des claustrats. C'était intenable. Vous mettez la serviette mouillée sur vous, 5 minutes après, elle était sèche. Ça, c'est pas vieux non plus, hein. Ça date de 17 années. Ouais, même pas. Vous allongez sur le lit, vous comptez les blattes qui qui circulent. Enfin, vous les comptez. Il y en a tellement que vous les comptez pas, quoi.
Vous avez la porte, hein, plus une grille.
Ouais, une dizaine d'années, même pas. Ouais.
Plus voilà, une grille.
Alors, je suis rentré à 28 ans en prison et j'ai l'impression de me réveiller.
Sans pouvoir même dire, reste forte, dans 2 ans, 3 ans, je serai là, donc on va pouvoir.
Le long cauchemar.
Plus une autre grille que là, que le brancard à la clé.
C'est vrai qu'avant, vous aviez 10 journaux, le tabac était limité.
Mais entre 4 murs.
Plus une grille.
Ou entre 4 murs de promenade pendant 20 ou 25 ans.
À 4 paquets de volants par semaine ou alors 2 paquets de grilles.
C'est-à-dire qu'après, quand vous êtes dedans, après la promenade, 9 heures, c'est fini.
8 mois par mois.
Ça veut dire être privé de tout, pas seulement sur le plan sexuel, parce que tout le monde porte tout de suite à ça. En réalité, je n'ai que 28 ans de vie.
42, 43 degrés.
Un lit en béton, chiottes, des toilettes turques, et voilà. Et vous êtes là, 23 heures sur 24.
Moi, ça fait 20 ans que j'ai envie d'aller me balader au bord de la mer, mais des fois, ça peut devenir une obsession. C'est pas une question d'être mal dans sa peau parce qu'on est entre 4 murs.
8 jours. Oui, c'est long. 8 jours, c'est long. C'est très long.
20 ou 25 ans de prison, c'est pas 8 jours au club méditerranéen. Vous savez, on a beau. Depuis l'arrivée de la gauche en 81, il y a eu une énorme amélioration au niveau des conditions de détention.
Quand même, on nous enlève pas mal de choses.
Il y en a tellement que vous les comptez pas.
On n'est rien, quoi. On n'est rien. On a un numéro. D'ailleurs, on a un numéro, tout ça, on a un numéro des
clients. Il y a que la télévision, on la loue, on la paye très cher en plus. 270 francs par mois, environ 100 balles de plus que dehors.
Ben, sur chaque bon, il faut mettre son numéro d'écrou. Si vous, par exemple, vous mettez votre nom, votre prénom, et pas votre numéro d'écrou, ça passe pas. Donc vous êtes bien matriculé. Si oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Quoi. Ben, la guerre, un juif, c'est un matricule tatoué, voilà.
Est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes de violence entre les détenus?
Vous en avez connu, vous?
Et en travaillant, vous gagnez combien par mois?
On saura un jour ce que cachent les rires, la provocation.
Mais alors, ici à Perpignan, vous estimez que c'est relativement correct?
On attend que le temps passe, on regarde le mur, on regarde à droite, on regarde à gauche, on peut pas, même pas marcher dans la cellule parce que c'est tellement petit.
C'est quoi les choses que vous voudriez voir soit changer, soit modifier dans votre vie quotidienne?
Mais je ne crois pas que les questions se posent en ces termes.
Pourquoi est-ce qu'après un internement psychiatrique, le malade, une fois rentré chez lui, n'a-t-il pas une obligation de suivi psychiatrique, ce qui pourrait éviter des récidives?
Vous êtes plutôt bien portant.
Oui, enfin, moi, c'est à cause de la cortisone.
Mais vous comprenez qu'on puisse se sentir choqué par un certain nombre de caricatures ou d'écrits?
Mais ça veut dire que souvent, vous n'avez pas la possibilité de savoir ce qu'il en est du suivi du traitement que vous avez préconisé lorsque le malade est en externe.
Par exemple, la démocratie participative. Un dispositif, et je vous pose la question, qui d'après vous répond ou non à la crise de la démocratie française?
Il y a aussi...
Quels sont-ils ces effets secondaires, principalement?
Et est-ce que c'est du dépit amoureux?
Je pose une petite question, ce sera la dernière.
Vous êtes devenu réac?
Il y en a tellement que vous ne les comptez pas, quoi.
C'est-à-dire que ça se passe... Vous les gardez ou vous les réunissez?
C'est à la direction laissée faire.
Antonio, vous êtes dépressif, vous avez donc un traitement à suivre.
Dans mon cas, il y avait 2 solutions.
Comment vous le suivez? Est-ce que vous trouvez qu'il est contraignant?
C'était où je me pends le soir de ma condamnation, où j'essaie d'aller au bout.
Comment vous vivez
Moi, ça fait...
cette prise de traitement à longueur d'année?
20 ans que je suis en prison, ça fait 20 ans que je suis en prison tranquille.
Concentre-toi. Cela va s'arranger. Si tu te conduis bien, tu seras sauvé. Un jour, tout ira bien. Tu vas t'en sortir. Tu peux changer. Tu es là pour... Si c'est cela que l'on écrit. Pour te ressourcer, tu vas trouver... Faire le point. Tu es là pour... Calme-toi. Pour ton bien. Tu es là pour... Calme-toi. Pour ton bien. Sortir par la grande porte.
Incroyable.
Tu vas te calmer.
C'est Les chiens fuyaient devant les rats. Les bergers allemands, ils fuyaient devant les rats comme ça. Et vous avez les autres ailes, l'exemple LED, vous avez un côté, c'est les retours de mitard. Il faut savoir que quand vous prenez 10 jours de mitard, vous avez 20 jours de grâce en moins.
Et ça, ça demande du temps. Il y a des étapes.
C'était des vessies dures quand on était obligé de mettre une bouteille avec du sable ou de l'eau pour boucher les rats montés par les WC. Tu te rappelles ? C'est incroyable. Donc, c'est une deuxième condamnation. Et vous remontez, vous sortez du mitard, vous restez 2 mois enfermé en cellule.
Les problèmes de relation avec les autres, est-ce que...
Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre après le gars ? Il sait très bien qu'après, il n'aura plus de permission, plus de conditionnel, il n'a plus de grâce. Qu'est-ce qu'il en a à foutre d'avoir une bonne conduite en prison ?
Après, il n'a plus la carotte.
Il n'a plus la carotte, donc...
C'est-à-dire que du jour au lendemain, on est passé d'un régime qui était quand même archaïque, aujourd'hui en prison...
C'est qu'on a l'eau chaude, maintenant...
L'eau chaude dans les cellules ?
Ouais.
C'est la prison à l'heure actuelle, c'est ni le club méditerranéen ni le bagne. C'est au milieu. Comme beaucoup de choses, c'est au milieu. Ça veut dire qu'on n'est plus astreint aux travaux, on ne nous tape plus dessus, mais d'un autre côté, on n'a pas de piscine, on ne se bat pas au soleil. Bon, mais...
Dans cette situation...
Il y a beaucoup de tentatives de suicide liées au...
Je peux emprunter cette voie.
Au mitard, au stress que ça peut engendrer, parce que c'est...
Oui. Réponse A.
C'est vraiment une torture, mais c'est pas physique, hein, c'est mental.
Je le dois ça.
Souviens, il vous parle pas.
Le compte.
C'est tout l'endroit il est gris, c'est vraiment tout
terminé.
Réponse
B.
Pour mettre du terrain, quoi.
Il stationne.
Là, vraiment, du terrain. Là, il met un peu, mais là-bas, c'est.
Il circule.
Moins que rien, quoi. Là, on a plus rien. Le peu qu'il nous reste, quoi. Là, vraiment, on nous retient.
Moi, quand je me suis évadé, j'ai fait 3 mois d'affilée.
J'arrive à céder le passage. Je vais devoir réduire ma vitesse.
110 km/h.
La route va tourner.
Réponse.
La distance.
100 km/h. C.
L'étendue. Le véhicule gris est bien placé. Pour tourner à gauche.
50 km/h.
À droite.
À droite.
Réponse
à
gauche.
Le gars qui se coupe les veines, c'est... Ouais, c'est courant, c'est... C'est banal, c'est banal. On va le recoudre et puis voilà, basta.
À droite et à gauche, après avoir marqué un temps d'arrêt.
Je suis pas un agitateur, je suis pas un mouton non plus. Je fais mon chemin, j'essaye d'emmerder personne, ce qui fait que personne m'emmerde. Moi, j'ai eu la chance de trouver une sortie, enfin, un but, c'est l'informatique.
Ah oui.
Puisque je m'occupe du club informatique ici. J'ai quand même pas mal, je suis assez branché informatique. C'est un métier d'avenir, c'est quelque chose qui me passionne. Je suis totalement imbriqué dedans, totalement impliqué dedans. Je travaille aux ateliers pour payer un ordinateur, parce que ça aussi, c'est aussi quelque chose, c'est une petite parenthèse, mais c'est aussi une légende qu'il faut démolir. En prison, on vous donne à manger.
Je dois céder le passage au véhicule venant de droite. J'entreprends mon dépassement. Non. Au vu de la signalisation, l'interdiction de dépasser concerne tous les véhicules. Ma pédale de frein principale est totalement défaillante. Il s'agit d'un rappel de l'interdiction. Si la chaussée avait été en sens unique...
Déjà, j'ai l'impression, quand je sors, chaque fois de prison, j'ai l'impression que ça se voit.
Je me mets au point mort et j'éteins le moteur.
Que tout le monde le voit,
modèle,
que je suis sorti de prison,
intégré,
que ça se voit sur moi.
N'est-ce une pathologie, s'entendre le faire pendant qu'il est chaud?
On est là, on est bloqué, on ne peut rien
faire. À n'y rien sentir, quand voilà. La fièvre de consumer, elle aussi qui nous cible.
العالم غريبة وفي الغربة وحدة قاسية ووحشة تجعلني أفكر أبدا بوطن سحري لا أعرفه وتملأ أحلامي بأشياء
أشباح أرض قصية ما رأتها
Radio Libertaire 89.4, vous êtes toujours à l'écoute de Trafic, encore pour quelques minutes. En compagnie de
Christophe Davidel.
Non, c'est pas le premier. Hein.
David Christoffel, pour son disque. Mais juste à l'instant, je voulais quand même préciser que ce qu'on vient d'écouter, suite à une de tes compositions, c'était Camélia Djoubran et Werner Hassler. Camélia Djoubran qui est une chanteuse, joueuse de oud, palestinienne, et Werner Hassler qui est un musicien plutôt d'origine
suisse,
jazzistique, mais qui là est plutôt dans la musique électronique. Donc c'est un duo suisse, effectivement, palestinien-suisse, et les textes qui sont chantés par Camélia Djoubran sur ce disque qui s'appelle Wamid sont tous des textes qui sont écrits par des poètes qui écrivent en arabe et d'origines diverses, qu'ils soient perses, qu'ils soient irakiens, qu'ils soient iraniens, peu importe, mais ils sont tous des poètes qui sont en exil. Voilà. Donc ça me paraissait marrant de pouvoir enchaîner ça avec ce bâton d'interprétation
De l'exil entre les murs.
De l'exil, oui.
Entre les murs. Qui a donné une petite polémique hein, quand même. Bon, on en parlait en micro sur la parole des prisonniers qui est utilisée comme ça. Bon, ça demanderait un vrai débat. Le fait justement d'utiliser la parole des autres, parce que bon, jusqu'à présent, on a écouté des textes que tu avais écrits toi, hein, qui étaient
sorti de ta propre tête, de ta propre réflexion, d'un cheminement qui était particulier. Là, c'est l'appropriation de la parole des autres. On est dans un autre rapport.
Mais je trouve que justement, c'est quand même mettre très haut dans le discours la notion de propriété. Parce que enfin, moi, j'ai l'impression dans mes textes qu'il y a peu de mots qui sont de moi, si ce n'est aucun. Même quand j'écris une phrase, je fais déjà du montage.
Mais là, c'est aussi jouer sur les mots déjà.
Non, il ne faut pas le prendre au sens mystique, qu'il y a des voix qui me traversent, mais effectivement, il y a les expressions toutes faites qui nous viennent dans la bouche. Et les expressions toutes faites, peut-on dire que l'on en
mais
est
les
auteurs ?
Mais tu les choisis.
Je choisis de les agencer les unes avec les autres. Et quand effectivement je fais un travail avec de montage avec des paroles de prisonniers, je choisis quel bout je vais prendre pour mettre à côté de tel autre. Dès lors, j'assume ce qui est dit. Si bien que, effectivement, c'est...
Mais c'est dit
presque,
par d'autres.
Du coup, des interprètes. Oui, c'est dit par d'autres. Mais je crois qu'on gagnerait, y compris éditorialement, à ce que la parole devienne la propriété de celui qui en fait le montage. Je veux dire, on y gagnerait dans les médias également si on voulait bien assumer que le travail de journaliste puisse être un travail de création radiophonique. Ça supposerait quand même effectivement de, entre guillemets, s'asseoir sur ce qu'est le droit, l'équivalent du droit à l'image pour les personnes interviewées. Mais comme à rebours, ça re-responsabiliserait monstrueusement le discours des médias, je pense qu'à l'arrivée, tout le monde serait à peu près gagnant.
Alors ça, les journalistes, ils sont pas prêts d'assumer ce genre de choses.
Oui, mais pour cause, enfin, on leur donne pas les moyens de l'assumer. C'est-à-dire que quand on leur donne, enfin, moi, j'avais été effaré. C'est toujours l'exemple que je prends pendant la campagne électorale. Le jour où on avait dit ça y est, Ségolène Royal est enfin une vraie candidate professionnelle et tout le tralala, parce que elle sait faire des réponses aux questions de 25 secondes, c'est-à-dire formater, nanani, nanana. Donc c'est ça, je veux dire, l'horizon de la parole politique, c'est d'arriver à se formater. À 25 secondes. 25 secondes, c'est-à-dire une parole qui est livrée à la radio, à la télé, je veux dire, sans montage, au sens de sans travail de création. Voilà.
Oui, sauf que là, pour la parole des prisonniers, je reviens dessus parce que c'est un peu quelque chose un peu difficile. Hein, c'est que là, on a affaire à des gens qui sont entre quatre murs, qui ont dit une parole à un instant et qui ne peuvent plus ensuite maîtriser ce que la parole qu'ils ont dite va devenir. Et donc là, le journaliste est tout à fait libre, lui, de l'interpréter, de rescrunger à l'intérieur, de recomposer, de réécrire, de Et là, il n'y a plus d'égalité entre la parole dite et la parole interprétée et réécrite.
Ouais, mais dans le cadre de la radio, de toute façon, à partir du moment où c'est diffusé, quoi.
Oui, mais enfin, la télé aussi. Non, moi, oui. Je ne sais pas quoi répondre à cet argument. La seule chose que j'aurais à répondre, c'est que ça me donne envie vraiment d'aller faire le montage en prison.
Avec eux, bien sûr.
Bah, du coup, à plusieurs, effectivement. Ouais. Bah, là, c'est ça ma réponse, si tu veux. À cette...
Mais c'est la seule réponse.
C'est, oui, la seule réponse. Et en même temps... J'aime pas, si tu veux, quand même, que cette problématique-là prenne une... des mots comme c'est leur propriété que cette parole. Je veux dire, s'il y a bien une chose que l'on doit préserver de public dans ce qu'on est, c'est bien notre parole. moi, j'ai pas tellement envie que, en tant que ça, mes textes soient ma propriété. Et même c'est tout ça, enfin, si ça pouvait devenir la propriété de ceux qui en font usage. Tu vois, quand tu me dis tout à l'heure, à la limite, je sais pas quoi faire de ton CD, je sais pas par où prendre le plaisir, si je dois me laisser porter par le sens, ou enfin, laisser porter par la musique plutôt, ou si je dois capter des idées, je veux dire, c'est ton problème, au sens où tant mieux que ce soit le tien et pas le mien.
Je suis libre de pouvoir le faire.
Eh ben oui.
Et puis ce sont tes paroles que je prends.
Mais les gens qui écoutent cette émission en prison ont le droit de le faire. Enfin, j'ai donné des cours.
Mais tu imagines peut-être qu'il y a des gens qui sont actuellement en prison et qui écoutent des paroles qu'ils ont peut-être dit à un moment et qui sont sur ton disque et qui leur reviennent.
En l'occurrence, ces paroles-là ne sont pas sur le disque, mais elles sont, oui, ce soir à la radio. Oui, je l'imagine. Mais j'imagine mal que...
Donc il y a un rapport au temps et à l'espace, parce que ce sont des archives, donc évidemment, peut-être pas les mêmes personnes qui écoutent en ce moment, mais en même temps, il y aurait pu y avoir une personne qui se reconnaisse dans ce qui a été
dit. Moi j'assume ce travail comme une prolongation de la défense de la liberté d'expression des gens qui sont en prison. Moi, quand j'ai donné des cours de philo en prison, j'ai abordé la notion de liberté, et ce que j'ai pu constater, c'est que les détenus eux-mêmes étaient extrêmement vindicatifs, mais vraiment, de leur liberté de penser. Effectivement qu'elle était confrontée à une liberté d'expression qu'ils trouvaient pas forcément être la liberté la plus aliénée par rapport à celle qu'ils pouvaient avoir à l'extérieur. Et ça me fait penser, parce que donc c'était dans le cas du Génépi que je faisais ces actions, à un dessin où on voit un détenu qui se penche par-dessus le mur de la prison et qui fait coucou aux passants qui sont à l'extérieur en leur disant « Vous êtes nombreux là-dedans ». Et effectivement, en termes de liberté d'expression, j'ai quand même du mal à entendre que la partition soit si claire pour dire que ce sont eux qui en sont privés et nous qui sommes véritablement libres. Donc ça, enfin, j'ai vraiment...
Il y a plus de prisonniers extérieurs.
Oui, voilà. Mais surtout quand on... Enfin, non, parce que c'est vraiment d'un cynisme difficile à soutenir cette phrase-là. Mais quand il s'agit de liberté d'expression, effectivement, c'est pas la même chose. Et puis quand même, on a été, en faisant ça, prendre des archives à l'INA de paroles d'anonymes en prison plutôt que d'aller prendre des paroles de Claude François pour l'anniversaire de sa mort. Je veux dire, c'est quand même aussi ça, un acte éditorial qui promeut la liberté, même si...
Alors,
ouais, mais bon, le débat est ouvert. Moi, j'entends cet argument. Je sais pas quoi en faire. Tu vois bien, mais
non, on en reparlera
dans une prochaine
émission.
Ouais.
Et peut-être avec des tolards, ou peut-être avec l'émission précédente qui s'appellera Les Murs, où on pourrait peut-être en trouver une forme de débat par rapport à ça. Ce que je voulais dire, c'est que nous, on t'a rencontré, enfin moi, en tous les cas, à travers un disque Œcuménix. Oh là, Œcuménix.
Bah, c'est Œcuménique qui vire mal.
Voilà, Œcuménix. C'est un support qu'on trouve facilement, c'est quelque chose qu'il faut commander sur internet, on le trouve dans les librairies branchées de poésie.
On le trouve surtout dans les librairies pas branchées. Non, allez surtout dans les bibliothèques ringardes. Là vous êtes sûr de le trouver. Non, c'est pas si facile de le trouver, il faut reconnaître. Il faut écrire à Artalect, donc à Rélecture, l'éditeur qui est 4 Villa Garnier dans le 15e arrondissement.
Avec un site,
et,
je suppose.
Et on trouve l'adresse sur mon site, mais lui n'a pas de site.
Et ton site, c'est
dcdb.fr, dcdb comme David Christoffel Database. Ou bien criticalsecrète.com/David Christoffel, c'est le même. Mais c'est
ça va trop vite là pour les gens, ils ont pas le temps.
Alors dcdb.fr.
C'est un disque qui circule, c'est un disque qui passe dans les radios, c'est un disque qui passe dans des soirées.
C'est un disque qui passe un peu dans des cours de français. J'ai eu l'occasion à Rennes il y a un mois de rencontrer des profs de français à qui j'ai présenté mes travaux, et que ça a donné l'idée de passer quelques extraits dans leur classe auprès des élèves pour leur faire entendre que la poésie va au-delà de Prévert. Et qui ne passe pas à la radio tant que ça, non. Mais qui pourrait, oui, je devrais le présenter aux radios associatives.
Et c'est la première production, ou c'est déjà...
De disque?
Oui.
J'avais autoproduit un disque qui s'appelait Le Déchante Merdi en 1999. Et sinon, j'ai produit une cassette audio en 2002 qui s'appelait Gouluba par terre, qui était aussi un opéra parlé, et qui était une cassette audio mise dans un étui à lunettes à motif breton. Je voulais vraiment insister sur la désuétude que devait prendre l'objet, et j'espérais surtout que à force de passer la cassette, elle finisse par s'user, et je misais sur l'usure de la cassette pour trouver une sonorité, parce que c'était des voix parlées donc de mes textes avec une musique que je jouais à l'harmonium, et je pensais que ces voix et cet harmonium finiraient par trouver des fréquences communes, et que le texte serait rendu un peu à une part de son illisibilité en étant comme ça un peu plus fondu. Voilà, mais les cassettes ne se sont pas vendues. Je les ai distribuées comme ça un peu librement, et je pense les dilapider à l'occasion de façon un peu plus terroriste, en allant les mettre entre deux livres dans des bouquineries ou des choses comme ça.
On n'a pas creusé le concept d'opéra parlé, puis je pense que vu l'heure, on va pas commencer à aborder ce problème. Mais c'est quand même quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans ta présentation de ton travail.
Bah effectivement, je produis quand même la plupart de mes textes à l'occasion de ces dispositifs où il y a d'une part de la musique et d'autre part du texte parlé, de la poésie dite. Et ce part et d'autre crée un vis-à-vis qui permet effectivement au texte de continuer comme ça, en étant débarrassé de la question de sa continuité, en la mettant comme ça du côté de la musique. Et puis en débarrassant aussi l'auditeur de la problématique, à savoir par où est-ce qu'il doit aller chercher le sens. Là au moins, il a vraiment deux chemins possibles. Il sait bien qu'il peut pas tout à fait faire les deux à la fois. Donc c'est son jeu, quoi.
Alors à Trafic, on est quand même très attaché au slam, et Agnès encore plus que tout le monde. Est-ce que tu t'es retrouvé déjà sur des scènes slam à dire ce genre de texte, ou alors c'est vraiment un autre univers?
En fait, j'ai certains textes du trop pop opéra qui avaient un rythme assez litanique, qui se serait bien prêté à ça. Quand j'ai eu contact avec Nada, notamment, il avait été question qu'on slame ensemble. Et puis il y a un moment donné où j'ai vraiment pas creusé cette affaire-là, parce que le slam m'a semblé dans une maîtrise de son efficacité métrique qui ne me semblait pas permettre tous les troubles de rythme, de syntaxe dans lesquels j'arrive à jouir. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas approfondi cette affinité-là, même si de fait elle existe, mais à mon avis de façon un peu trop anecdotique quand même.
Bon, on désespère pas un jour d'une scène slam à t'inviter, et mais éventuellement de faire une fusion entre les deux univers.
Oui, oui, absolument. Le dernier samedi de chaque mois au Divan du Monde, scène ouverte avec Caroline Karn. Elle se fera un plaisir de t'accueillir.
Et on peut mettre de la musique? Alors non, le principe c'est
bah,
que ce
là,
soit
non,
a cappella.
Enfin, en tout cas au Divan, ça reste strictement a cappella.
Par contre, tu m'as appris un truc, c'est qu'on pouvait avoir le papier avec nous. Parce que Nada, apprenant par cœur, moi il est hors de question que j'apprenne par cœur. Parce que ça me rappelle trop la récitation de l'école. Et la récitation de l'école, moi je la chantais. Donc c'était pour moi pas de la poésie, c'était de la chanson. Donc voilà, maintenant que je sais qu'on peut avoir le papier sous les yeux, déjà ça change.
Absolument.
Un peu la donne.
Voilà. Oui. Oh, pas de musique, sauf que si tu te débrouilles, tu peux arriver à jouer de quelque chose en même temps, ou à siffloter un air entre les mots.
Oui, voilà.
Il y a toujours moins de ça.
Avec des clics, tu sais, comme dans les langues éthiopiennes.
Oui.